Laudetur Jesus Christus.
Le pape dans quatre pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie au mois de septembre. Le Vatican confirme aujourd'hui ce prochain voyage apostolique le plus long du pontificat. 12 jours du 2 au 13 septembre qui comprendront Jakarta, Singapour ou encore le Timor. L'Asie du Sud-Est au cœur de la bataille d'influence entre Pékin et Washington. Le sommet trilatéral États-Unis, Philippines, Japon hier soir à la Maison-Blanche remet en lumière les tensions dans la région. Reportage à suivre auprès de pêcheurs philippins. Israël en alerte après les menaces de l'Iran. Elles sont crédibles et réelles selon Washington. Benjamin Netanyahou réunit son cabinet de guerre. La France exhorte ses ressortissants à ne pas se rendre en Iran, au Liban ou dans l'État hébreu. Dans ce journal, nous entendrons la voix de Mgr Vincenzo Paglia, le président de l'Académie pontificale pour la vie. Elle s'élève contre le vote des députés européens hier à Bruxelles. 336 d'entre eux approuvent l'inscription de l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'UE.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonsoir. La salle de presse du Saint-Siège l'a confirmé à la mi-journée. Le pape François effectuera un voyage apostolique en Asie du Sud-Est et en Océanie du 2 au 13 septembre. 30 000 kilomètres en quatre étapes attendent le Saint-Père. Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor-Oriental et Singapour. Un nouveau déplacement auquel le pape de 87 ans tient particulièrement. Olivier Bonnel nous présente les enjeux de ce périple asiatico-océanique.
Après la Corée du Sud en 2014, les Philippines et le Sri Lanka en 2015 ou encore le Japon et la Thaïlande en 2019, un nouveau voyage apostolique en Asie attend donc le pape François. Ces 11 jours prévus seront le plus long voyage effectué depuis le début de son pontificat, un voyage qui rappelle les grands déplacements de son prédécesseur Jean-Paul II. C'est d'ailleurs en partie dans les pas du pape polonais que François va se placer, puisque Jean-Paul II s'était rendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1984, ou encore au Timor en 1989, alors faisant partie de l'Indonésie. Ce voyage apostolique aura une dimension interreligieuse importante, en particulier à Jakarta, capitale du pays musulman le plus peuplé de la planète, et où les catholiques ne représentent que 3% de la population. Le Timor oriental, qui a su se réconcilier après une terrible guerre avec son voisin, est aussi une étape symbolique. Le Parlement timorais avait adopté à l'unanimité le document sur la fraternité humaine signé par François. Un voyage où le Saint-Père va aussi visiter cette périphérie de l'Océanie qu'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont il avait créé cardinal l'archevêque de Port Moresby, la capitale. Depuis ce pays le plus pauvre d'Océanie, il pourrait lancer un appel à l'écologie dans une terre fragilisée par les changements climatiques et inviter une nouvelle fois au respect des migrants. François compte sur le dynamisme de ses églises d'Asie, comme celle aussi de Singapour, autre étape annoncée de ce voyage, Singapour où il avait créé cardinal l'archevêque de la ville-État en 2022.
Olivier Bonnel, ce sud-est asiatique est le théâtre des tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis. Après le sommet trilatéral hier à la Maison-Blanche entre Washington, Tokyo et Manille, les hostilités s'amplifient. Ces derniers mois déjà, les accidents se multipliaient entre les navires chinois qui occupent le terrain et les Philippins qui ont bien du mal à protéger leurs intérêts dans leur propre zone économique exclusive. Première victime de ces affrontements stratégiques, les pêcheurs philippins. Notre envoyé spécial Jean Labruyère est allé à leur rencontre.
Dans le petit port de Masinloc, les prises du jour sont arrosées d'eau de mer pour garder un semblant de fraîcheur. Parmi les passants, Anthony jette un regard désapprobateur sur les poissons vendus à la criée.
Ici, les poissons sont trop petits. Nous, on préfère aller pêcher à Scarborough.
Avec son capitaine Efren, ils se rendent plusieurs fois par mois au récif de Scarborough, un atoll dans la zone économique exclusive philippine, mais où depuis 2012, Pékin fait sa loi.
C'est une zone avec beaucoup de bons poissons là-bas. Surtout la zone ouverte, celle qui est gardée par les Chinois. Mais on ne peut pas s'en approcher. Ils nous empêchent de pêcher. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent de gigantesques projecteurs de lumière qu'ils braquent sur nous. Et cela diffuse tellement de chaleur que c'est insupportable. Ils ne s'arrêtent pas jusqu'à ce que tu quittes la zone. Cela nous fait perdre beaucoup d'argent.
Ils se disent abandonnés et craignent que l'escalade vire à la frontière.
Nous avons beaucoup de gardes-côtes qui viennent, mais ils ne peuvent pas passer et aller dans cette zone. La Chine protège ses pêcheurs, mais pour nous, il n'y a pas de protection. La situation est dangereuse. On pourrait se retrouver en guerre.
Les Philippines et leurs alliés comptent augmenter les patrouilles pour répondre à la présence chinoise. Efren et Anthony, eux, n'ont pas l'intention d'abandonner leur terrain de pêche. Jean Labruyère, de retour de Masinloc pour Radio Vatican.
La crise humanitaire se poursuit à la frontière birmano-thaïlandaise. Des centaines de réfugiés ont traversé aujourd'hui la rivière frontalière après la chute d'une ville stratégique aux mains des rebelles qui luttent contre la junte militaire birmane. Bangkok met en garde contre toute intrusion sur son sol, affirme se préparer à un afflux de réfugiés. La Thaïlande travaille avec les membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est pour relancer un plan de paix pour la Birmanie. Au Proche-Orient, la tension est à son comble suite aux menaces iraniennes contre Israël. Téhéran promet de punir l'État hébreu après une frappe contre son consulat à Damas au début du mois qui lui est attribué. Le raid avait notamment tué des hauts gradés des gardiens de la Révolution. Une riposte de Téhéran serait imminente, estiment les renseignements américains. Israël est donc en état d'alerte. À Tel Aviv, Ariane Ménage.
Benjamin Netanyahou rassemble ce vendredi après-midi son cabinet de guerre. Une réunion pour évaluer le niveau de préparation de l'armée face au risque d'une attaque iranienne. Niveau de préparation aussi évoqué la veille avec le secrétaire d'État américain à la Défense, puis avec le patron du CENTCOM, chef des opérations militaires américaines au Moyen-Orient, de passage en Israël. Face aux menaces iraniennes, Washington réaffirme, je cite, son soutien inébranlable à la défense d'Israël et multiplie les mises en garde vis-à-vis de Téhéran. À Oman, entre les deux pays, un canal diplomatique est toujours ouvert. En Israël, renforcement de la défense aérienne, permission de réservistes suspendus et brouillage GPS. En état d'alerte, l'armée affirme envisager tous les scénarios et le gouvernement promet des représailles à toute attaque menée directement depuis l'Iran sur le territoire israélien. À Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
Et l'Union européenne sanctionne aujourd'hui des branches militaires du Hamas pour les violences sexuelles commises le 7 octobre. La branche armée du djihad islamique palestinien également est inscrite sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Washington a fait de même. Réunion extraordinaire ce vendredi à Caracas. Le Venezuela accueille un nouveau cycle de négociations entre le gouvernement colombien et la guérilla de l'ELN. La guérilla accuse Bogota d'avoir une double politique de paix, estimant que le dialogue est dans un état critique. Elle appelle les pays garants du processus et les pays accompagnateurs à exercer leur rôle d'aide aux deux parties. À trois jours du premier anniversaire de la guerre au Soudan, la conférence humanitaire qui aura lieu lundi à Paris indigne aujourd'hui à Khartoum. Le pays dénonce une atteinte à sa souveraineté. Cette conférence internationale pour le Soudan et les pays voisins est co-organisée avec l'Allemagne et l'Union européenne. Elle vise à combler le déficit de financement pour faire face à la crise soudanaise et comporte une dimension politique, mais aucune des deux parties au conflit n'est invitée. Et puis au Togo, la population appelée par l'opposition a manifesté massivement aujourd'hui et demain à Lomé, la capitale, contre la nouvelle constitution adoptée fin mars et perçue par certains comme une manœuvre. Le gouvernement togolais a interdit le mouvement et reprogrammé la tenue d'élections législatives au 29 avril. Retour en Europe où une majorité de députés à Bruxelles ont approuvé hier l'inscription de l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'UE. Selon le président de l'Académie pontificale pour la vie, ce choix du Parlement européen est un recul culturel révélateur d'une conception individualiste de la vie. On écoute Monseigneur Paglia.
Je considère qu'il s'agit d'un choix totalement idéologique, au sens négatif du terme. Le problème est le suivant, l'absence totale du droit de l'enfant à naître. C'est à mon avis très grave d'un point de vue culturel et social. En ce sens, il me semble qu'il s'agit d'un choix qui va en arrière, et non en avant, et qui va à l'encontre du respect de tous les droits, même des plus faibles. Et dans ce cas, l'enfant à naître est le plus faible. Il ne peut pas parler, il ne peut rien revendiquer, et il est logique, trop facile de faire valoir les droits des plus forts et d'oublier les plus faibles. C'est un mauvais choix que de revendiquer le droit d'une seule partie, et non des deux. Cela esquisse une mentalité qui, à mon avis, est très individualiste et ne tient pas compte de la réalité de la vie. N'oublions pas que lorsqu'une femme est enceinte, il y a deux réalités. En ce sens, la réhabilitation totale des droits individuels, au détriment aussi des devoirs les uns envers les autres, nous conduit à une triste dérive. Celle que chacun peut être juge de lui-même. Et ce chacun peut être l'individu, il peut être un groupe, une nation. En ce sens, il y a une ivresse de l'individualisme.
Des propos recueillis par Francesca Sabatinelli de la rédaction italienne de Radio Vatican. Les JMJ célèbrent ce dimanche leurs 40 ans d'existence, 4 décennies depuis les premières tenues à Rome le 14 avril 1984 à l'initiative de Jean-Paul II. Près de 300 000 jeunes catholiques avaient pris part à ce jubilé international des jeunes et s'étaient vus confier par le pape polonais la croix de la naissante devenue depuis symbole des JMJ. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de votre écoute. Excellente soirée à tous.